Soir à l'écoute de Karine Dublanche pour Parlons-nous, c'est dans un tout petit instant.
RTL Foot. Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire.
Merveilleux.
Parce que je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL.
Bonne fin de soirée avec Karine Dublanche pour Parlons-nous RTL, il est 23h.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour dialoguer avec vous sur tous les sujets qui vous concernent ou vous préoccupent. On est à vos côtés en direct jusqu'à 1h, alors sans plus attendre, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul sont là, tout prêts à vous accueillir et à recueillir vos premières confidences. Dany Matouk est à la réalisation de l'émission et bien sûr, nous comptons aussi sur vous et sur vos réactions pour rebondir sur les témoignages par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous ou directement au standard 09 69 39 10 11.
Jusqu'à 1h, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
RTL.
Bonjour, c'est Christine Haas. L'astrologie vous intéresse, vous intrigue, vous avez des questions, mais vous hésitez encore à les poser à une astrologue. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur le 3210 où je mets tout mon savoir-faire et mon expertise à votre service.
Les horoscopes de Christine Haas, c'est sur RTL, rtl.fr et au 3210.
50 centimes la minute, plus prix d'un appel.
23h, 1h.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Francis.
Ah, bonsoir Caroline.
Bonsoir, voilà, et bienvenue.
Merci, donc je me permets de vous appeler parce que bon, je vous écoute tous les soirs.
Mais merci beaucoup.
Donc, oui, bien sûr, votre émission me touche énormément. Donc ce soir, je me permets de vous appeler pour vous développer un peu sur la maladie de mon épouse.
Oui. Voilà, pourquoi souffre-t-elle, votre épouse? Il y a du bruit derrière. Vous avez la télévision allumée?
Non, j'ai pas la télévision allumée. J'ai simplement le petit qui est venu parce que bon, il m'a entendu parler, donc il s'est inquiété.
Vous avez un petit enfant à côté de vous?
J'ai deux enfants.
D'accord.
Donc un petit de 9 ans, un petit de 4 ans, une petite de 4 ans.
Un petit donc, de 9 ans et de 4 ans.
Oui. Donc je voulais parler un peu de la maladie de mon épouse.
Oui.
Donc mon épouse qui est atteinte d'une maladie, donc comme ils nous ont dit les professeurs, c'est malheureusement un myélome multiple, je pense que vous devez connaître.
Ça touche donc, la moelle.
C'est la moelle osseuse, oui, c'est ça. C'est ça, c'est un myélome multiple qui touche toutes les cellules du corps. Et donc, quand les cellules sont finies de se manger entre elles, ça attaque les os. Donc actuellement, mon épouse a des trous partout dans les os. Et malheureusement, c'est un cancer avec lequel on vit entre 3 et 5 ans, maximum.
Oh, vous a donné, l'oncologue vous a parlé de ce pronostic-là?
Oui, l'hématologue, au Luxembourg, hein, parce que moi j'habite à la frontière luxembourgeoise.
Oui.
Donc un jour, mon épouse se plaignait toujours donc de sa hanche,
oui.
de sa jambe.
Oui.
Donc nous allons chez le médecin et puis notre médecin nous dit bah, écoute, t'inquiète pas, elle fait une sciatique et tout. Mmh. Et puis au final ça ne pouvait plus durer. Un jour j'ai pris comme moi j'habite à la frontière luxembourgeoise,
oui.
Je suis frontalier, je travaille au Luxembourg.
Oui, je comprends.
J'ai pris mon épouse à Esch chez le docteur Klein. En fait aux urgences un samedi.
Ne donnez pas de nom de médecin, c'est préférable. Non, je vous en prie, c'est pour vous.
Et donc,
il est inquiet, le petit, c'est lequel qui est à vos côtés?
Ça, c'est la petite qui est venue me voir.
Qui a deux ans?
Qui a quatre ans.
Elle dort pas, cette petite?
Non, parce que bon, je suis allée voir mon épouse, et oui. Depuis que mon épouse est malade.
Elle est à l'hôpital?
Non, elle est chez nous à la maison, elle a des traitements, hein, c'est beaucoup de
chimiothérapie.
Et puis oui, voilà. Ouais, énormément. Bah, moi aussi, de toute façon. Mais bon, il faut pas que je craque parce que bon, faut que je sois là pour mon épouse, hein, forcément. Et le fameux samedi, donc je la ramène à l'hôpital. On lui fait des prises de sang, rien ne paraissait dans le sang. On lui fait un scanner et on s'aperçoit qu'elle avait des trous partout dans le squelette. On appelle l'hématologue. L'hématologue vient, décide d'hospitaliser mon épouse une journée.
Oui.
Ils lui font donc des ponctions de la moelle osseuse et puis ils me convoquent. Quelques jours après, le médecin me convoque. Mmh. Donc l'hématologue avec l'oncologue, les deux.
Mmh.
Et le verdict tombe, quoi. Un myélome multiple. Mmh. Donc,
C'était il y a combien de temps que vous avez appris ça?
Ça va faire maintenant, au mois de décembre prochain, ça fera 3 ans.
D'accord.
Et donc il a été très bien.
Quel âge votre femme?
Mon épouse a 46 ans. Voilà. Et il nous a dit effectivement, il n'y a pas de traitement pour ce. Il y a un traitement, mais il n'y a pas de guérison de ce cancer.
D'emblée, on vous a dit que c'était très grave.
Absolument.
Alors il y a des cancers qui se chronicisent, mais voilà.
Donc On l'a fait passer directement en France par des oncologues et des hématologues.
Oui.
Et puis effectivement, ils l'ont reprise en charge. Et en novembre dernier, elle a subi une greffe de moelle osseuse.
Oui, oui.
Donc c'est tout un protocole qui est très très lourd également.
Oui.
Parce que bon, elle était partie pour 3 semaines en chambre stérile, plus d'un mois et demi d'hospitalisation. Oui. Donc,
comment ça s'est passé, cette greffe?
Très dur.
Oui,
Outre
l'isolement.
C'est terrible. Oui, l'isolement total. Elle
j'entends
a pas
votre petite qui est à côté, oui, qui elle est séparée de sa maman.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Donc, pendant plus de 3 semaines, mes enfants ne l'ont pas vue. Bon,
oui.
Idem pour mon épouse. Moi-même qui allais à l'hôpital, mais je ne pouvais pas l'approcher, donc je restais à plus de 10 mètres d'elle. Mmh. Parce que comme elle était, vous savez... Ils l'ont mise en aplasie médulaire, comme ils appellent ça, eux.
Oui.
Donc, je ne pouvais pas l'approcher.
Mais non.
Et alors, de ce fait, comme c'est une très, très, très grosse chimio où on perd tout, ses cheveux, tout.
Mm.
Et là, dernièrement, suite à sa chimio, on vient de s'apercevoir que tous les tendons, donc du bassin et de l'utérus, ont lâché. Donc, il y a eu un abaissement des organes.
Mmh. Oui, mais c'est pas le plus grave, ça, parce que ça s'opère. C'est plutôt l'avancée de la maladie. Comment, moralement, comment elle tient le coup, votre femme?
Ben, vous savez, j'en ai parlé avec les médecins.
Oui.
Et les médecins m'ont clairement dit, écoutez, votre dame, c'est une battante. C'est une battante.
Elle se bat, oui.
Voilà,
elle a ses enfants qui sont petits.
Voilà, c'est ça.
Qui est aussi un moteur pour se battre. De
voilà, c'est...
De voir grandir.
Exactement.
Mais oui.
Exactement. Attention, des fois, elle craque. Hein. Des fois, elle craque. Hein,
on craquerait à moi. Hein, oui.
Voilà. Des fois, elle craque. Moi, je demande qu'à l'aider, mais c'est dans ces moments-là, on peut pas aider. Même si c'est mon épouse, je peux pas l'aider plus.
Je comprends, mais c'est dans son corps qu'est la maladie.
Voilà,
c'est elle qui.
C'est elle-même et sa maladie, quoi.
Oui. Et vous souffrez moralement.
Ben, j'en souffre. C'est tout à fait. Vous savez, tout à fait logique aussi. Mais bon, c'est plus bon mes enfants, quoi, parce que Johan, je vois Johan. Il regarde sa mère parce que...
C'est votre garçon qui a 9 ans ?
Oui, c'est ça.
Oui, à 9 ans, il perçoit, il comprend des choses.
Il comprend énormément. Et vous savez, je pense qu'on a eu une de vos confrères, parce que bon, vous êtes psychologue. Hein,
oui.
Donc, la psychologue, elle nous a parlé, elle nous a dit, il faut informer vos enfants, à mon épouse, hein, il faut informer les enfants de la maladie, il ne faut rien lui cacher. Alors, on ne cache rien aux enfants.
Enfin, il faut quand même un peu l'adapter à leur âge. C'est-à-dire, bien sûr que de toute façon, vous ne pouvez pas leur cacher, parce que quand ils voient leur maman, ils voient déjà il y a eu la séparation. Vous me dites, les séjours à l'hôpital, et puis les transformations physiques. Ils voient bien que leur maman a perdu ses cheveux, qu'elle est affaiblie. Donc, il est important ne rien dire sera encore plus angoissant. Donc, dire qu'elle est malade et que c'est grave. Mais après, rien leur cacher, il faut quand même adapter à leur âge, déjà. Est-ce que vous êtes entouré, Francis? Est-ce que vous avez de la famille autour de vous?
Ah. Non, absolument pas. Nous sommes seuls, mon épouse et moi. Parce que mes parents, personnellement, sont décédés.
Ah bon?
Oui, mes parents sont décédés, père et mère sont décédés. Et j'ai les parents de mon épouse qui sont très loin, ils sont en Algérie.
Et eux sont en Algérie et ils ne peuvent pas venir auprès de leur fille
Non, bah, c'est pas facile en fait. C'est pas facile.
Elle n'a pas des frères et sœurs qui pourraient un peu vous seconder ou sur lesquels vous pourriez vous appuyer?
C'est pas facile non plus parce que sa sœur qui est plus près, elle a Roubaix.
Oui.
À Roubaix, donc c'est pas facile pour elle parce qu'elle a sa vie aussi. Hein.
Et vous avez des frères et sœurs?
Oui, bien sûr, mais vous savez, comment on pourrait dire courage fuyant, hein. Quand une personne va bien, tout va bien, et puis quand la personne a atteint ses maladies, hop, on prend du recul là-dessus, hein. Donc voilà, quand on a peur.
Donc ça rajoute à votre souffrance et cet isolement aussi.
Voilà.
Et sur le plan amical, vous avez un peu des personnes autour de vous?
Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des amis personnels quand mon épouse était hospitalisée et que je devais me rendre à son chevet. J'ai mes amis tout de suite qui m'ont gardé les enfants, hein, sans
mais
aucun
oui,
problème.
Mais
hein.
Oui.
Ils étaient là. Ils m'ont dit, Francis, pars près de ta femme. Nous, on est là.
Oui.
Mais autrement dit, on a aussi sa sœur de Roubaix qui a mis sa vie personnel, entre parenthèses, qui était là, qui l'a vraiment aidé.
Qui est venue même... aussi à un moment.
Ah oui, elle est venue à un moment, et puis depuis qu'elle avait su la maladie donc de mon épouse, elle a pris notre enfant, elle a pris pratiquement pendant 2 ans, elle a pris ma fille.
D'accord,
voyez,
la plus petite, là.
Oui, on l'a montée sur Roubaix, et c'est elle qui s'en occupait.
D'accord, oui, bah, c'était bien pour vous, parce que comme ça, vous pouviez être auprès de votre épouse et de votre fils. Enfin, parce que seul au quotidien, puis votre femme doit être trop fatiguée.
Oui, énormément fatiguée.
Pour pouvoir s'occuper de la petite.
Moi aussi, je travaille au Luxembourg. Donc vous savez, je travaille dans la sécurité au Luxembourg, donc c'était pas facile pour moi non plus. Hein, donc voilà.
Et vous pouvez continuer à travailler, vous y arrivez
Je m'adapte. Hein. C'est pas facile, mais je m'adapte. Hein.
Ils sont compréhensifs, vos responsables?
Oui, bien sûr.
Tant mieux.
Moi, j'ai mon chef, mon boss. Hein, mon boss, je vais tout expliquer.
Oui.
Ils vont français, c'est aucun problème. Et vous voyez, on a un avantage au Luxembourg que, voilà comment ça se déroule. Quand on a une naissance, comme mon épouse, comme Johan, pardon, comme mon premier et mon deuxième, et ma deuxième sont venus au monde. Au Luxembourg, la loi, elle nous autorise à prendre le congé parental. C'est 6 mois.
Ah, c'est 6 mois au Luxembourg,
ouais, au Luxembourg
pour les pères.
C'est 6 mois pour les pères, oui.
Ah oui, ça, c'est formidable.
Et donc, on perd pas le salaire. Le salaire, il est intégral.
Oui.
Donc, quand j'ai appris un peu la maladie de mon épouse, tout de suite, je me suis mis en congé parental.
Oui, parce que vous avez découvert la maladie. Si vous avez une petite fille de 4 ans, elle avait 1 an. Vous me dites que ça a commencé il y a 3 ans.
C'est ça, tout à fait.
C'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête, là.
Oui, c'est ce qui est bien, vous savez, au Luxembourg, c'est qu'on peut prendre le congé parental jusque l'âge de 6 ans. Une fois que l'enfant a 6 ans, on n'a plus le droit, mais autrement, de la naissance à 6 ans. Par contre, Caroline, si je peux me permettre, vous pouvez peut-être me conseiller.
Dites-moi.
J'aurais aimé éventuellement, parce que je vois que, bon, Johan travaille très bien à l'école, hein. Même à Maëlle, hein, même pour Maëlle et en temps maternel, Maître Kevin, il me voit et me dit « Francis, à Maëlle, c'est incroyable ». Et Johan travaille bien à l'école, mais vous savez, je vois un peu, quand même, c'est un peu... J'aurais aimé voir si c'est pensé que je pourrais éventuellement le faire aider par une psychologue, Johan. Parce que je trouve introverti quand même.
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça pourrait être un grand soutien. À sa demande, en fait, voyez, selon, vous trouvez qu'il a changé dans son comportement?
Oui.
Vous le trouvez plus replié sur lui-même?
Oui, bien sûr. Et quand je veux parler avec lui, il me répond pas, vous savez.
Oui.
Je lui dis, Johan, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit rien. Mais je sens
qu'il garde beaucoup de choses, il intériorise beaucoup de choses.
Énormément.
Vous
et
me
j'ai
dites
peur
que...
de cela.
Oui, mais c'est bien que vous soyez attentif à cela, parce que c'est il est déjà à son âge, il peut malheureusement protéger. Enfin, malheureusement, il a conscience de, il veut protéger sa maman, mais il peut vouloir aussi vous protéger vous et donc garder toutes ses peurs pour lui. Et il doit en avoir des peurs. Donc ça serait bien qu'il y ait un endroit où il puisse parler de ce qu'il ressent.
D'accord.
Et puis pour vous aussi, je trouve que ça sera un soutien parce que vous me parlez de cette psychologue, c'était dans le service où est votre épouse ?
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. De dire aux enfants, mais vous avez, vous, votre propre peur, votre propre inquiétude. Donc c'est compliqué de vous m'avez dit quand votre petite fille elle est venue dire il faut que je tienne pour eux. Et justement, pour pas vous effondrer, donc être appuyé un peu d'un professionnel qui, lui, un peu pourra trouver les mots, pourra... Vous voyez, c'est aussi un soutien de plus pour vous. Vous n'en avez pas beaucoup.
Non, j'en ai absolument pas du tout, même. Mais je me dis qu'il faut être fort psychologiquement. Et puis... Et bon, c'est pas facile. Il y a des moments où... on essaie de penser à l'après, parce qu'on se voile un peu la face. Et on se voile un peu la face. Mais je me dis, si un jour mon épouse n'est plus là, vous voyez. Et ça, je préfère pas y penser maintenant.
Mais je comprends ça. Je comprends parce que elle est là. Elle est là et elle se bat. Donc c'est toujours, vous voyez, quand on a annoncé le diagnostic, c'était il y a 3 ans, elle est là, elle se bat, donc les médecins, ils ont des statistiques sur les maladies. Mais oui. Après, en phase 2, ils ont des personnes en chair et en os qui eux, parfois, peuvent déjouer les statistiques, les pronostics. Donc...
Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, d'ici là, je pense que la médecine aura peut-être trouvé un peu le bon remède, entre guillemets.
Mais je comprends qu'il y a aussi la recherche qui avance. C'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner, peut-être... espérer qu'il y ait un protocole, un nouveau protocole qui arrive, qu'elle puisse être incluse à un nouveau processus thérapeutique, enfin, bon. Et puis, tant qu'elle est là et qu'elle se bat, vous battez à ses côtés.
Ah oui, non, question de ça, un grand respect pour mon épouse parce que elle a un mental d'acier. D'ailleurs, mon médecin nous avait dit, avec 42 séances de chimiothérapie, me disait, hein, avec 42 séances de chimiothérapie, elle me dit, on ne sait pas comment, comme le médecin me dit avec le collège, parce qu'ils appellent ça le collège, oui. Un collège médical.
Oui.
Elle disait, entre eux, il revenait pas que mon épouse avait 42 séances de chimiothérapie, oui. Et qu'elle a réussi à tenir, quoi.
Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle veut vivre pour voir grandir le plus possible vos enfants.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, vous savez, nous, on est d'origine algérienne.
Oui.
Donc, on est musulmans.
Oui.
Et puis après, on se remet, vous savez, au destin de Dieu.
Oui, mais je comprends.
Et parce que on parle et tout. Puis après, bon, on dit, après, c'est Dieu qui décide. Hein. Le moment est venu. Quand le moment sera venu. Donc, mon épouse croit énormément en Dieu.
Oui, c'est d'un grand soutien, d'un grand secours pour elle, certainement. Oui, parce que ça permet certainement, à travers vos prières aussi, de dire qu'il lui laisse cette possibilité de vivre le plus longtemps possible.
Voilà, personnellement, je ne pratique pas. Hein. Personnellement, bon,
Oui, mais on peut avoir des prières, vous savez, dans ces cas-là, même les non-croyants adressent des prières.
Bien sûr. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr, mais mon épouse est pratiquante. Hein.
Oui.
Mon épouse est pratiquante, hein. Mais elle s'en remet à Dieu totalement. Hein. Elle s'en remet à Dieu.
Mais c'est une force pour elle, c'est.
Voilà, c'est ça, absolument.
Là, elle est à la maison, en ce moment.
Oui, elle est à la maison, bien sûr.
Et votre petite fille, alors je vois, vous me dites, elle dort pas, est déjà tard.
C'est les vacances.
Ah, c'est les vacances, d'accord.
Oui, c'est les vacances, donc je les autorise un peu à aller se coucher. Bon, ils ont fait la sieste, hein, l'après-midi aussi.
Oui,
hein.
Oui.
Par chez nous, bon, comme je vous dis, nous, il a fait froid, il a plu, donc ils ont fait la sieste les après-midi.
D'accord, elle en profite pour veiller un petit peu avec vous.
Voilà, absolument.
Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que votre petit garçon, pour répondre à votre question, je pense que vous avez raison. De toute façon, quand un parent est touché par une maladie grave, c'est important aussi pour le parent qui est soutien comme vous de pouvoir s'appuyer sur des professionnels et pas forcément une thérapie régulière, mais à la demande de l'enfant qu'il y ait un lieu où il puisse déposer un peu ses chagrins, ses peurs. À son âge, votre fils. Du haut de ses 9 ans, il peut vouloir vous préserver. Et il a des peurs, certainement, que sa maman ne soit peut-être plus là. Mais il n'ose pas forcément les formuler pour vous protéger. Donc, c'est bien que dans un endroit, il puisse un peu déposer cela avec des mots, avec des dessins, à travers des jeux. Votre petite fille, elle a 4 ans. Qu'est-ce qu'elle... Alors, à 4 ans, elle réagit plus aux transformations physiques, j'imagine.
De sa maman. Je vais dire le prénom. La petite, directement, elle sait la maladie de sa maman. Quand le VSL vient chercher sa maman...
Oui.
Elle voit, elle dit « Papa, maman va faire la piqûre ?» Je lui dis « Bon, elle va faire sa chimio, quoi, vous savez. » Donc, elle sait que ma fille...
Mais elle grandit dans cet univers-là depuis ses 1 an.
Exactement.
Dans la maladie fait partie de son quotidien.
C'est ça. On lui pose la question.
Oui.
À ma petite, on lui pose la question. On lui dit « Bon, qu'est-ce qu'elle a, maman, comme maladie ?» Elle va nous dire « Maman, un cancer du sang. » Vous voyez, elle sait déjà, elle sait prononcer, mettre un mot sur la maladie, quoi.
Oui.
À 4 ans, elle nous sort déjà ça, quoi.
Mais parce qu'elle entend.
Voilà.
Elle entend et que les VSL, les infirmières, les prises de sang,
Exactement.
Ça fait partie de son quotidien.
Exactement. Ouais, exactement.
Pour votre fils, en revanche, lui, ça a basculé. C'est-à-dire qu'il a connu sa maman qui n'était pas dans la maladie, et tout d'un coup, il y a la maladie qui vient là, et qui fait irruption, et...
C'est ça.
Vous savez, même pour votre petite fille, d'ailleurs, quand vous, je ne sais pas, vous pouvez demander d'ailleurs à la psychologue du service où est hospitalisée votre épouse, ou à votre médecin traitant, les coordonnées de quelqu'un, de bien. On peut aussi, et il pourra demander à voir votre petite fille.
D'accord.
Parce que même du haut de ses 4 ans, elle peut exprimer certaines choses, ou à travers des jeux et des dessins, bien sûr.
D'accord.
Oui.
D'accord, à ce moment-là, c'est ce que j'ai pensé quand même à en parler aussi. Parce que je me suis dit, je n'en parlais que pour le grand. Et puis bon,
non, même à 4 ans, c'est possible. Elle le vit différemment. Parce que d'abord, à 4 ans, on n'a pas cette notion que les choses peuvent s'arrêter. Mais vous me dites, quand votre femme a été en chambre stérile, était en aplasie médulaire, votre petite fille, pendant plus d'un mois, était coupée de sa maman.
Oui, absolument.
Ne pouvait pas la voir, ne pouvait pas, enfin, être touchée. Donc tout ça, ce sont des séparations et des séparations qui peuvent engendrer des angoisses.
D'accord, en fait, justement, c'est ma plus grosse inquiétude. J'ai peur que par la suite, ça puisse avoir de retombées, vous savez, sur leur vie scolaire et puis dans leur vie...
Justement, c'est là où il est important de faire de la prévention et un accompagnement.
D'accord.
Parce que ce qui fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Et même un enfant de 4 ans, à partir du moment où l'enfant a le langage, même enfin un professionnel saura lui parler, lui expliquer, ou à travers, je vous dis, un peu des jeux, des dessins, voir un peu ce qu'il en est. Et quant à votre petit garçon, vous avez raison, il faut être attentif au fait que il garde beaucoup de choses pour lui.
Voilà, c'est justement, c'est aussi une partie de mon angoisse, parce que j'ai peur que ça soit, vous savez, comment on appelle communément, une bombe à retardement, quoi, vous voyez.
Oui, oui, c'est le risque, c'est-à-dire que d'où l'importance qu'il puisse parler, mettre des mots sur ses peurs, dans un endroit où il se sentira rassuré, où il pourra poser toutes les questions sans crainte de faire de la peine. Parce que là, il ne parle peut-être pas parce qu'il a peur de faire de la peine.
D'accord.
Donc c'est important. Vous avez raison. C'est important qu'il soit lui aussi accompagné. Et vous n'en ressentez pas le besoin ?
Parfois, oui. Je me dis. Parfois, après, vous savez, je me dis, oh, ça va passer. Ça passera.
Oui, mais comme vous dites, parfois, ça pourrait aussi vous aider, vous, de pouvoir un peu lâcher, même craquer, pour repartir plus fort au combat. Parce que vous prenez aussi beaucoup sur vous. Le conjoint, il souffre beaucoup aussi moralement. Parce que souvent, le conjoint ne s'autorise pas à craquer parce qu'il faut être fort pour l'autre. Et puis, quand il y a des enfants, et des enfants si jeunes, il faut aussi... vous êtes le pilier, Lou, vous, en ce moment. Donc, vous vous dites, j'ai pas le droit de m'effondrer. Alors, pour ne pas s'effondrer, ben, c'est bien d'être un peu soutenu et de vous appuyer sur quelqu'un aussi. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez entouré. Parce que ça compte beaucoup dans ces cas-là, le soutien, le tissu affectif autour. Et comme malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de famille autour de vous, voire pas du tout, à part votre belle-sœur qui est venue, qui s'est occupée de votre petite fille, mais à ce moment-là, il y a des professionnels qui peuvent être là pour prendre soin de vous aussi, pour vous soutenir.
D'accord.
Parce que c'est long, c'est un combat, c'est long. Il y a aussi vos peurs ou sur l'après, alors que vous évacuez parce que c'est trop angoissant. Mais si vous aviez un lieu d'accompagnement, vous pourriez l'aborder. Et après, l'aborder, c'est pas ce qui fera mourir votre épouse. Mais non, vous, c'est de pas rester avec ce poids sur le cœur. Et parfois, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots sur les peurs par rapport à l'avenir, ça fait qu'elles apparaissent moins, comment dire, moins grosses, moins oppressantes.
D'accord. Vous voyez, comme par exemple, ce soir, là, j'ai mon épouse qui n'est pas bien du tout.
Elle n'est pas bien.
Non, elle se tord de douleur énormément. Vous voyez, donc c'est pour cela aussi en partie que les enfants sont encore debout.
Oui.
Ouais, parce que là, depuis le début de soirée, elle tremble à la température. Là, elle est quand même pas loin à 40 de température. Elle a des douleurs terribles. Alors, on attend demain. On va appeler les
matelots. Vous attendez demain, oui.
Oui.
Ah oui, parce que oui. Si elle a de la fièvre, il faut.
Oui,
elle préfère attendre demain matin, essayer de passer la nuit. Elle a des choses un peu pour calmer la fièvre pour.
Elle a pris du Doliprane et puis autrement, vous savez, pour tout ce qui est douleur, c'est le Tramadol.
D'accord.
Et quand je la prends aux urgences, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de la prendre aux urgences.
Oui.
Le médecin, sans en aucun cas mettre ses compétences en doute, mais vous savez, quand on lui présente le tableau donc du myélome, comme ils disent, on l'a appris à l'école de médecine, mais on ne sait pas comment faire pour donner un traitement éventuellement là-dessus. Donc vous savez, ils sont un peu pas perdus, mais je veux dire, ils vont administrer donc du tramadol à mon épouse, et puis après ils lui disent, écoutez, reprenez contact avec votre hématologue ou votre oncologue, vous voyez.
Oui, bien sûr, ils essaient sur le moment de soulager la douleur.
La douleur, tout à fait.
Mais après, ils vous orientent vers l'équipe soignante qui connaît bien sa situation, sa maladie.
Absolument.
Ils ne veulent pas faire de, vous voyez, donner des choses qui, bien sûr, ils soulagent et ils orientent.
Voilà, absolument, tout à fait.
Oui, donc là, c'est pour ça, malheureusement, vous avez l'habitude de ces situations et vous préférez attendre le matin, quoi.
Oui, voilà. Donc
en espérant que la nuit, que les douleurs vont se calmer. J'espère qu'avec le... ça va un peu s'apaiser pour elle.
La conduite à tenir, bon, c'est le tramadol et puis augmenter les doses, quoi. Hein.
Oui. Qu'elle passe pas la nuit comme ça, avec autant de douleurs.
Voilà. Alors c'est pour ça que je me suis dit ce soir il faut.
Mais
j'en
je comprends que vous ayez besoin d'en parler. Et vos enfants, les deux sont debout là ou...
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils entendent leur maman.
Oui, voilà, ça, là aussi, la maman crier, pleurer, quoi. Hein, oui.
Bon. Alors c'est important que vous essayiez quand même de les voir votre épouse, parce que rester un peu auprès d'elle.
Oui, bien sûr. Hein.
Je comprends que ça soit angoissant, mais ça peut, vous voyez, votre présence peut aussi va la rassurer.
Vous savez, elle est forte parce que là, elle vient de me dire, elle me dit, écoute, vas-y, va dormir, va, t'inquiète pas. Je fais, écoute, je lui dis, je suis à côté, je suis dans la chambre à côté. Je laisse la porte ouverte si c'est à quoi que ce soit. Tu me bipes, je laisse mon téléphone en vibreur, tu m'appelles et tout, mais Et puis, quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu que votre émission a commencé. Caroline, parce que tous les soirs, je m'endors en vous écoutant.
Ben oui. Vous avez bien fait. Oui, vous aviez besoin de parler.
Oui, j'en ai même parlé à mon épouse. Hein. J'écoute tous les soirs, j'écoute Caroline Dublanche. Oui. C'est une psychologue et tout. C'est une fois, j'ai essayé de l'appeler, puis vous voyez, ça tombait là ce soir. Et c'est le moment ou jamais, donc voilà.
J'espère que la nuit va être plus paisible, que les médicaments vont faire un peu baisser la fièvre et qu'elle va pouvoir un peu dormir et reprendre des forces au moins. En attendant, il est important que vous essayiez de, même dans ce contexte-là, de coucher vos enfants, peut-être de leur raconter une petite histoire en leur disant que vous veillez sur leur maman, que vous êtes là, que ça va aller, qu'elle n'est pas toute seule. Vous voyez, pour qu'eux puissent aussi un peu s'apaiser, parce que s'ils entendent leur maman crier, évidemment, ils sont angoissés. Hein.
Oui, bien sûr. Mais la question, ça, la petite histoire, c'est, j'ai ma petite de 4 ans, elle demande tout le temps, « Papa, tu me racontes une histoire ?» Alors, je lui raconte une histoire et tout, et puis bon, on s'endort comme ça, généralement.
Oui, mais alors c'est bien, c'est ça, parce que votre présence va lui permettre de s'apaiser, de trouver le sommeil. Déjà, un peu de ce côté-là, vous serez soulagé. Votre petit garçon, bon, lui, il a besoin aussi de paroles autour de ça, et en disant que vous allez rester auprès de sa maman, qu'une fois que la fièvre va tomber, ça va aller mieux, que vous êtes là. C'est ça.
Mais il le sait, hein, il le sait que je suis toujours là. La preuve, c'est que dès que je me lève des fois la nuit pour regarder. On a l'impression qu'ils se sentent rassurés. Quoi, voilà.
Mais bien sûr, c'est pas une impression. C'est qu'ils se sentent rassurés parce que vous êtes là, vous êtes leur papa, et c'est sur vous que repose tout. C'est pour ça que c'est bien lourd. Vous travaillez vous demain ? Non, c'est les vacances là. Vous m'avez dit.
Non, je travaille pas.
Heureusement.
Voilà, oui, et puis les enfants sont en vacances également.
Bon. Heureusement j'espère oui que pour votre épouse ça va aller mieux, que la fièvre va tomber.
Voilà, l'important c'est déjà demain appeler l'hématologue en disant qu'elle fait de la température.
Ah, il faut oui bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de messages de soutien, beaucoup de tendresse. Il y a Cathy de Paris. Elle dit vraiment, on souhaite que la médecine fasse des progrès pour vous, pour tous les malades. Courage et plein de compassion à vous, à votre femme, à vos enfants. Il y a l'homme au camélia qui rebondissait sur le fait d'avoir aussi un psy pour votre petit garçon et votre petite fille. Il dit, vous savez, les mots, et pour vous-même, les mots exorcisent, rendent les difficultés moins insurmontables parce qu'elles sont partagées. Il a raison. C'est-à-dire que la réalité, elle est là, mais au moins, on peut la partager. Et puis, on peut un peu ces peurs les tenir à distance en mettant des mots dessus.
Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut trouver des mots et puis... À mon niveau, c'est pas facile.
Ouais, c'est tout sauf facile. C'est extrêmement dur ce que vous vivez. C'est très très dur. On serait tous bien démunis. Enfin, et puis face à la souffrance. Enfin, il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale. C'est pour ça que je pense que même votre épouse, une fois que vous aurez couché vos petits, le fait de, puisque vous ne travaillez pas demain, d'être un peu auprès d'elle, de lui tenir la main, de lui éponger un peu le front, ça, enfin tout ce que vous faites, une présence, ça apaise. Dans ces moments, quand on va très mal, quand on est malade comme ça physiquement, on a besoin de comme quand on était petit en fait, de sentir une présence qui nous réconforte, qui tienne la main, qui mette la main sur le front, qui caresse. Vous voyez, qui cajole en fait.
Tous les soirs.
Eh oui.
Dès que ça va mieux, elle s'allonge. On est devant la télé. Oui. Les gosses sont couchés et puis je commence à lui faire des massages.
Oui.
Je commence à lui faire des massages et tout, ça lui fait du bien, ça la soulage, quoi.
Oui, le toucher est très réconfortant.
Voilà, bien sûr, je fais des massages, mais avec prudence, parce que vous savez, dans cette maladie-là, dès que il y a des trous dans les os,
oui.
Donc, vous voyez,
donc vous pouvez, faut pas faire mal. Il faut que ça soit très doux, bien sûr. Alors, faut pas que
des
ça
fois,
soit...
j'ai une région au niveau de la cheville, vous savez, de la cheville, puis au niveau du tibia.
Oui.
Dès que je commence un peu, elle masse un peu trop, elle crie parce qu'elle a mal.
Elle a mal, la pauvre. Ouais.
C'est comme le cancer des os, c'est la même chose.
C'est terrible.
Parce que bon, c'est ce myélome là, il attaque tout, il attaque aussi bien les organes vitaux. Ouais, ouais. Et là, vous voyez, on est parti en vacances et puis mon épouse avait une drôle de toux.
Oui.
Elle a une drôle de toux et puis je dis à mon épouse, elle est bizarre, ta toux, elle me plaît pas. Je dis ah bon? Alors elle me dit, tu crois que j'ai le Covid? En rigolant, je dis non, mais fais attention. Elle part en consultation.
Oui.
L'hématologue lui fait un scanner.
Oui.
Et puis donc elle a une péricardite, c'est-à-dire que la maladie qui a attaqué le péricarde.
Ouais, ouais.
Voilà.
Oui. Vous avez senti il y avait quelque chose qui vous préoccupait. Cette toux n'était pas normale.
Voilà, j'ai dit,
on voit que vous êtes dans une hypervigilance.
Ah mais vous savez je suis assez en oui, je suis déjà en comment vigilant déjà à la base de nature,
oui,
parce
oui.
que vu ma profession...
Dans votre métier, oui, la sécurité.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Oui.
Dans ma profession, je suis agent de sécurité,
mais
donc,
oui.
Donc je suis
oui.
assez vigilant.
Bien sûr,
mais
oui, alors, bon. Oui. Mais d'autant plus dans votre vie personnelle. Mais pour vos enfants, sauf qu'ils ont un papa qui est agent de sécurité et c'est vous qui assurez la sécurité de la famille, là.
Voilà, c'est ça.
Et matériellement et affectivement.
C'est ce que, voilà, mon fils, c'est ce qu'il me dit.
Oui.
Mais papa... C'est là, de toute façon.
C'est ça.
Toi, tu peux,
oui.
Tu peux tout, je ne veux pas.
Il a besoin de se raccrocher, bien sûr, voilà. À vous. Et c'est pour ça que vous aussi, pour tenir, il faut aussi penser à vous pour être soutenu. Vous aussi, vous avez besoin de soutien moral. Il y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. On les écoute ensemble, Francis, pour vous donner un peu de force, j'espère, dans cette situation tellement éprouvante.
Oui, c'est le cas. C'est beaucoup de messages de soutien, comme Isabelle, comme Nicole. Je vois la mouette d'Annecy, je vois Moon aussi. Quel homme, quel papa, courageux, touchant, lucide. Enfin, beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Il y a Nathalie aussi. Elle dit, moi, je suis passée par là aussi. Plein de courage à vous, à votre femme, à vos enfants. Il y a Isabelle qui dit, moi, j'ai eu un myélome également, diagnostiqué alors que j'avais 45 ans. J'ai pas l'âge d'Isabelle actuelle, hein, je peux pas vous dire. Mais elle dit, je peux vous assurer que les traitements sont efficaces et s'améliorent constamment. Soyez forts. Isabelle vous propose de la contacter si vous le souhaitez pour en parler aussi. Elle a laissé son numéro de téléphone.
Mais merci beaucoup Isabelle.
Elle nous a écrit sur l'application RTL. Et puis c'est Armel aussi qui nous a appelé carrément au 09 69 39 10 11 qui voulait vous parler de cette association. Je ne sais pas si vous la connaissez. AF3M. En fait, son père était atteint de cette même maladie. Elle a été énormément aidée grâce à cette association.
Oui.
AF3M. D'accord. En fait, c'est une association nationale qui vient en aide aux malades et aux proches de gens atteints du myélome multiple. Donc, vous pouvez les contacter. J'ai pas de numéro de téléphone particulier parce qu'en fait, il y a plein d'antennes dans toute la France, plein de bénévoles.
Et Francis est au Luxembourg. Mais enfin, bon, vous pouvez les contacter.
Vous pouvez toujours aller sur le site af3m.org et vous aurez tous les renseignements nécessaires.
Ah ben c'est bon, super, c'est ce que je vais faire là.
Quelle est l'auditrice, Paul, qui a
Armel.
Armel, ben merci beaucoup à Armel parce que
Armel, un grand merci à Armel.
Mais oui, parce que ça peut être très important, ça, le soutien d'une association de malades qui sont passés par là, leurs proches. Voyez-vous qui malheureusement n'avez pas la famille autour de vous pour vous soutenir.
Absolument.
Ça, ils peuvent vous tenir lieu comme ça et vous donner des mots d'espoir et des relais. Donc, beaucoup, beaucoup encore de messages qui arrivent, à l'instar de Brigitte. Très grand courage à vous, énorme admiration, tendre caresse aux enfants. Il y a Bob White qui dit aussi, on est sous le coup de l'émotion, vous écoutant. Beaucoup beaucoup de... je pense que nous serons nombreux à penser à vous, à votre épouse, à vos petits, cette nuit, en espérant que la nuit va vous apporter, va apporter à votre épouse un peu de, de calme, d'apaisement, qu'elle va moins souffrir et qu'elle va pouvoir finir par s'endormir. Et que demain, dès demain matin, vous puissiez appeler son hématologue, parce que si la fièvre retombe pas, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra l'hospitaliser pour qu'elle soit bien prise en charge. Voilà, plutôt.
Vous savez, personnellement, si je peux dire, moi, j'ai énormément d'admiration pour mon épouse.
Mais je
comprends. Parce que malgré sa maladie, elle s'occupe parfaitement bien de nos enfants.
Ah oui.
Donc, ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, j'ai énormément d'admiration pour elle.
Mais c'est les enfants, c'est aussi ce qui la tient, certainement, ce qui lui donne cette envie, cette force de vivre. Parce qu'elle, c'est ce qui la raccroche à la vie. Ça et sa foi en Dieu aussi. Donc, il faut se raccrocher à tout. Allez prendre soin de vos petits, déjà,
d'accord,
pour qu'ils puissent s'endormir un peu comme on vous dit, votre petit Johan, t'es là, papa, tu veilles. Ben oui, c'est vous qui prenez soin de tout le monde. Et puis après, voilà, essayez d'aller voir votre épouse, dites-lui, enfin, qu'on lui adresse vraiment tout notre soutien, toute notre tendresse, qu'on lui envoie plein de force, voilà, pour qu'elle puisse, avec votre réconfort, votre soutien, traverser cette épreuve-là, et que tous nos vœux qu'elle puisse guérir.
Vraiment. Un grand merci à toute l'équipe, un grand merci aux auditeurs aussi, et puis à toutes les personnes qui ont pris 5 minutes de leur temps pour m'écouter, surtout.
Bah, écoutez, on est là, Francis, il y a des nuits comme ça qui vous paraissent longues, et la nuit, tout est plus difficile, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, à nous donner de vos nouvelles. D'accord?
Merci, au revoir.
Je vous embrasse, Francis. Bon courage pour cette nuit.
Moi, je reste de toute façon, j'écoute votre émission, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au revoir et merci de m'avoir pris sur l'antenne.
Au revoir, Francis.
ici qu'on ne sera rien comme les autres, rien comme les autres.
C'était Calogero ce soir dans Parlons-nous, rien comme les autres.
23h, 1h, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Il est parfois bien difficile hein, d'enchaîner après des témoignages comme celui de Francis. Et on se sent démuni face à la souffrance, souffrance physique, mais aussi souffrance morale. J'espère que, en tout cas, le fait d'avoir pu parler de ce qu'il vivait, et puis que tous les nombreux messages de soutien et de réconfort que vous lui avez adressés vont lui donner de la force et du courage dont il ne manque pas, lui et son épouse, pour continuer à avancer et à se battre. Bonsoir Franck.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci. Merci beaucoup.
Alors vous traversez, je crois, une phase un peu compliquée depuis un mois, je vois, sur votre petite fiche.
C'est que ça, vous arrive-t-il? Eh bien, en gros, au bout de 6 ans de vie commune, ma compagne, elle est partie avec ma fille il y a un mois.
Ah bon?
Il y a un mois de ça, ouais.
D'accord, mais... Elle a dit quelque chose avant de partir?
Ben justement, il n'y avait aucun signe, un encoureur, alors que moi, j'étais beaucoup dans le dialogue. Je me demandais souvent comment tu te sens, est-ce que ça va, au boulot ça va, tout ça. Il me disait toujours oui, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète de rien, tout va bien. Et puis, lundi matin, je pars au boulot, au revoir chérie, au revoir la petite, à ce soir. Et puis le soir, je suis rentré, plus personne, quoi, plus personne à la maison.
Et pas de lettre d'explication?
Non. Aucune explication, aucune lettre.
Elle a quel âge, votre petite fille?
Elle va avoir 3 ans le mois prochain, là.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous ne les voyez pas, vous l'appelez, vous lui téléphonez?
Ben, j'essaye de l'appeler dans les heures qui suivent, mais en vain, pas de réponse. C'est le soir très tard, elle-même, qui m'a recontacté, en fait.
Oui.
Par Snap, par message.
Donc, pour vous dire où elle est partie, pourquoi elle est partie?
Ben, c'était ça un peu... Ouais, moi, ce que je voulais savoir et comprendre, en fait. Hein.
Ben oui, parce que c'est inquiétant.
Ben oui, c'est très inquiétant, oui.
Bon, donc déjà, vous l'avez au téléphone, qu'est-ce qu'elle vous dit?
Ben, je l'ai au téléphone le lendemain, en fait, parce qu'il était très tard dans la nuit, donc je dis, écoute, je t'appelle demain, on discute tranquillement demain. Donc je l'ai appelé, et je lui ai demandé, ben, simplement, pourquoi tout ça? Pourquoi t'es parti avec la petite? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle m'a expliqué, un ras-le-bol, elle m'a dit, ben, son mot, c'est un pétage de câble, en fait. Voilà. Elle a pété un câble, comme elle
D'accord.
le dit.
D'accord. C'est l'expression qu'elle a utilisée.
Ouais, c'est l'expression qu'elle a utilisée, ouais.
Mais elle est partie où?
Ben, chez sa mère, à 300 km d'ici, en fait.
Ah bon, d'accord. Elle avait besoin de se rapprocher un peu de sa famille.
C'est ça, ouais.
Mais qu'est-ce qui lui a fait elle arrivait à mettre des mots sur ce qui a explosé, comme ça, sur ce qui fait qu'elle a craqué?
Ben, pétage de câble, et il n'y a pas vraiment d'explication, de vraie explication, en fait. À part le fait qu'elle avait besoin de voir sa famille, mais ça...
De prendre l'air, de souffler, ça n'allait pas.
C'est ça,
elle avait
ouais.
besoin de un peu se ressourcer, se réfugier auprès de sa famille.
Voilà, c'est ça, ouais. Je l'ai interprété comme ça, en tout cas.
Mais elle était calme les jours précédents,
Bah, très calme, très,
très calme,
très amoureuse. Enfin, on était bien, quoi, je veux dire. Il n'y avait aucun signe, pas comme si on se parlait plus, ou qu'il n'y avait plus de contact, ou qu'il n'y avait plus rien. Là, c'était
donc quelque chose d'assez soudain et impulsif.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que, oui, c'est ce qu'elle a dit, oui, en plus.
D'accord.
C'est très appuyé. Elle n'a pas réfléchi, en fait, de ce qu'elle m'a dit. Ouais.
Elle a pris la petite et bon, elle a pris la route. Bon. C'était il y a combien ? Ça, c'était il y a un mois, c'est ça ?
Ouais, ça, c'était fin mars. Ouais, tout juste
d'accord.
Un mois, ouais.
Donc, vous l'avez eu dans les jours qui ont suivi, j'imagine. Où ça en est aujourd'hui ? Où en est votre situation ?
Eh ben, elle est pire parce que c'est passé beaucoup de péripéties en ce petit mois-là, justement. Ouais.
D'accord. Que s'est-il passé ?
Quand elle est partie fin mars, elle m'a dit, écoute, ce serait bien que tu viennes. Comme ça, on passe un petit week-end hors de la maison, hors de chez mes parents, avec la petite. Donc, elle a tout organisé, un petit appartement Airbnb, franchement, très bien.
Et là, vous avez retrouvé votre femme comme d'habitude ce week-end-là ?
Ben, je l'ai retrouvée vraiment bien, ouais.
Oui.
C'était vraiment un super week-end, ouais.
Mais est-ce qu'elle a pu parler de ce pétage de câble, pour reprendre son expression ? Parce que qu'est-ce qui a motivé ça ?
Ben, toujours ça, le fait de vouloir revoir sa famille, en fait.
Donc, elle souffrait de l'éloignement ?
Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
Sa famille lui manquait. Il y a combien de temps que vous viviez à 300 km de votre belle famille ?
C'est plus de 2 ans qu'elle n'a plus aucun contact avec sa famille, quoi.
Ah, aucun contact ?
Ouais.
Et pourquoi ?
Bah ça a été toujours compliqué, en fait, entre ma compagne et sa famille, quoi.
Ah oui, donc ça lui pesait.
C'est ça, ouais.
Oui, parce que 2 ans, ça veut dire que votre petite fille avait 1 an à ce moment-là, quand elle était en rupture. Et vous n'avez pas su pourquoi il y a eu cette rupture pendant 2 ans.
Bah après, c'est des gens... Même elle est qualifiée de toxique, donc c'est pour ça qu'elle avait coupé les ponts.
Qu'elle s'était éloignée. Et elle a éprouvé le besoin. Comment elle a été accueillie ? Elle vous l'a dit, puisque elle est retournée chez sa mère
Ben bien, comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord.
Ouais.
Bon, donc vous passez un week-end tous les trois ensemble, qui se passe bien ?
Ouais, qui se passe très bien. La finalité, elle me l'avait dit, parce qu'on s'appelait tous les soirs précédents, elle voulait revenir. Pour elle, c'était des petites vacances, genre, j'ai soufflé, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu tout le monde, je me sens mieux.
Oui.
Mais du coup, c'est pas passé comme ça. Elle est pas rentrée le dimanche.
Oui.
Sa mère, elle a même appelé les gendarmes de peur que je monte de force prendre la petite ou le bazar ou je sais pas quoi, alors que non, pas du tout.
Ah bon ? Pourquoi elle a appelé les gendarmes ?
Je sais pas. C'est des gens apparemment assez procéduriers ou qu'ils ont peur ou je sais pas pourquoi. Donc là, moi, j'ai quand même été voir les gendarmes, leur expliquer, dire voilà, on vient de passer un week-end, dans les grandes lignes, quoi. Il me dit, mais monsieur, là, je comprends ce que vous me dites, rentrez chez vous, vous prenez votre voiture, rentrez chez vous, il y a une plainte qui a été déposée contre vous pour violence.
Ah bon ?
Là, je suis tombé
Mais elle
murs.
A été déposée par qui, cette plainte ? Par votre belle-mère ?
Ben,
ou par votre femme ?
Mais j'en savais rien pour l'instant.
Oui, mais
j'en savais encore rien. J'ai
vous ne l'avez pas dit, ils vous ont juste parlé de plainte.
C'est ça, ouais.
Après le week-end.